Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La cohabitation devient de plus en plus difficile entre la population turque et les réfugiés syriens. Ce n'est pas une déclaration d'un parti populiste, mais le constat d'une ONG qui a observé que les violences entre les deux communautés ont été multipliées par 3 l'an dernier. La Turquie accueille le plus grand nombre de réfugiés, 3,5 millions sur les 5 millions de Syriens qui ont fui leur pays. Reportage à Istanbul, signé Anand Lawar.
Abdallah, syrien, propriétaire d'un snack de falafel et poulet frit de 2,50 m de large dans une rue de Fatih, la petite Damas d'Istanbul, aime à se définir en bon voisin parmi les Turcs. Installé dans le pays depuis bientôt 4 ans, il a trouvé un arrangement pour ne froisser personne.
Mon voisin sert de la viande kebab, donc je ne sers que du poulet. Mon autre voisin fait du poulet, mais à la façon turque, donc je ne cuisine le poulet qu'à la façon syrienne. Il y a eu de petites tensions au début, mais maintenant tout va bien.
Emine, le vendeur de kebab, ne contredit pas son voisin, un homme, dit-il, charmant et respectueux. Mais il voit en lui l'exception qui confirme la règle.
Je lis dans les médias qu'il crée des incidents encore récemment à Ankara. Leurs hommes se promènent en groupe et font des démonstrations de force, ils s'attaquent à nos filles. L'autre nuit encore, j'en entendais se disputer bruyamment sur le trottoir. On a dû appeler la police. Alors qu'ils devraient respecter les règles de leur pays d'accueil, je trouve qu'ils sont vraiment sans gêne.
7 ans après le début du conflit en Syrie, la Turquie et ses 80 millions d'habitants accueillent officiellement 3,4 millions de réfugiés, auxquels s'ajoutent probablement entre 300 et 400 000 Syriens non enregistrés. Mais l'hospitalité des Turcs est en train de s'essouffler, met en garde l'ONG International Crisis Group dans un récent rapport. L'an dernier, au moins 180 incidents impliquant des réfugiés ont été recensés, dont 35 mortels, tuant notamment 24 Syriens. Les violences ont été multipliées par 3 sur les 6 derniers mois de 2017 par rapport à la même période en 2016. Nigar Göksel, directrice turque de l'ONG, raconte la montée des tensions.
Pendant les premières années, la plupart des réfugiés restaient dans les provinces frontalières de la Syrie, pensant rentrer chez eux. En 2015, des Syriens ont commencé à migrer massivement vers les villes de l'Ouest, certains essayant de se rendre en Europe, créant la fameuse crise des réfugiés, et d'autres s'installant autour d'Istanbul et Izmir. Le nombre d'incidents a subitement augmenté dans certains quartiers de ces villes.
Si tout commence en général avec une rumeur, un Syrien accusé d'un vol, d'une agression sexuelle, c'est un ressentiment larvé qui pousse des groupes d'hommes, turcs ou kurdes, à s'en prendre au lieu de résidence et de travail des Syriens au sein de leur quartier, pauvre le plus souvent. La chercheuse Nigar Göksel avance donc une autre raison à la montée des violences.
C'est à ce moment-là que les locaux ont pris conscience que ces réfugiés ne rentreraient pas chez eux, ce qui a eu pour effet de diminuer leur patience et leur hospitalité. À partir du moment où les Syriens ont commencé à faire des plans à long terme, à envoyer leurs enfants à l'école turque, à accepter des emplois peu qualifiés et non déclarés dans ces quartiers, les incidents violents ont commencé à augmenter. La plupart sont liés à des enjeux de concurrence sur le marché du travail.
Intégrer plus de 3 millions de réfugiés, dont la plupart ne parlent pas turc et sont peu qualifiés sur le marché du travail légal, est l'un des grands défis de l'économie turque. Entre 750 et 950 000 Syriens travailleraient dans le secteur informel et seulement 15 000 détiennent un permis de travail. Tunç, chauffeur de taxi istanbouliote, ne veut pas entendre parler de travailleurs syriens.
Quand tous nos citoyens auront le ventre plein et la garantie de leurs droits sociaux, alors les Syriens et les autres seront les bienvenus. Mais pas avant. Est-ce que tous les Turcs ont un travail, un diplôme ? Non. Alors nous d'abord, les Syriens ensuite.
À ces difficultés s'ajoute le sentiment justifié que les réfugiés pèsent lourdement sur les services publics, hôpitaux, écoles, collecte des déchets, et la conviction chez certains que l'État soutient les entrepreneurs syriens au détriment des commerces turcs. Emine, le vendeur de kebab, n'en démord pas.
L'an dernier, j'ai voulu ouvrir un restaurant de cuisine syrienne dans l'arrondissement des Enler, puisqu'après tout, les Syriens commencent à y être plus nombreux que les Turcs. Je n'ai pas réussi à obtenir toutes les autorisations, mais entre-temps, des Syriens ont ouvert plusieurs commerces. Certains ont même voulu acheter mon restaurant. C'est la preuve qu'ils sont tranquilles.
En général, quand des tensions émergent, les autorités ne prennent pas de mesures qui pourraient peut-être empêcher un épisode violent. Et quand des mesures sont prises, après coup, elles se limitent à l'évacuation des Syriens du quartier concerné. C'est que le gouvernement veut à tout prix maintenir l'image d'une cohabitation harmonieuse entre Turcs et Syriens et exalter l'hospitalité des Turcs par opposition aux Européens. Mohamed, un entrepreneur syrien d'Istanbul, venu d'Alep en mars 2011, préfère lui aussi voir le verre à moitié plein. Mais il ne manque pas de malice.
80% des Turcs sont très bien. Seule une minorité nous considère comme des ennemis. Mais nous sommes frères. Les Turcs et les Syriens partagent une longue histoire commune. Après tout, n'ont-ils pas été nos invités pendant 400 ans, à l'époque ottomane ?
2019, où trois élections seront organisées, s'annonce comme une année test pour la cohabitation entre Turcs et Syriens. Le nationalisme devrait dominer les discours et les réfugiés se retrouver, malgré eux, au centre des débats.
Bon dia, soc l'Anna Gabriel, però soc una puta traïdora, amargada.
La situation politique est toujours bloquée en Catalogne, notamment par le départ à l'étranger de 6 membres de l'exécutif indépendantiste. Outre Carles Puigdemont, on parle aussi de Clara Ponsati en Écosse, mais aussi d'Anna Gabriel qui a trouvé refuge en Suisse. Elle est membre du parti Coupe, une formation anticapitaliste, et elle est désormais accusée de sédition, rébellion et malversation financière. Son portrait depuis Madrid est signé François Musso.
Tous les médias espagnols se moquent, certains avec bienveillance, beaucoup avec malveillance, de son look, de son apparence et tout spécialement de sa coupe de cheveux. Lorsqu'elle habitait la Catalogne, Anna Gabriel était connue pour ses mèches rebelles qui lui tombaient dans le cou. Un style typique de son mouvement, les coupes, une coalition anti-système, anti-capitaliste et aussi farouchement en faveur de l'indépendance de la Catalogne. Une séparation de l'Espagne qui doit être immédiate pour les gens de la coupe. Aujourd'hui réfugiée à Genève, la brune Anna Gabriel a une coupe de cheveux beaucoup plus classique, avec une raie et le front dégagé. Beaucoup disent que l'ancienne porte-parole de ce mouvement anticapitaliste, indispensable pour toute coalition sécessionniste en Catalogne, s'est embourgeoisée. En réalité, il semble bien qu'Anna Gabriel souffre en Suisse. C'est un exil judiciaire, et dès qu'elle mettra le pied sur le sol espagnol, elle sait que les policiers la mettront en prison préventive, elle qui est accusée de rébellion contre l'État espagnol. Pire, pour cette Catalane d'origine andalouse, Genève est une ville très chère et elle n'a presque plus d'argent. Son parti a activé une caisse de solidarité, mais ce parti non plus n'a presque plus de fonds. Si bien que cette séparatiste radicale survit comme elle peut. Cette professeure de droit n'a pas encore trouvé de travail et a même du mal à faire des petits boulots. Son espoir est que son parti revienne au pouvoir en coalition, peut-être d'ici mai, pour que de nouveau elle reçoive de l'argent. Dans le cas contraire, celle qui se dit exilée d'un état oppresseur devra certainement rentrer chez elle en Catalogne et alors subir tout le poids de la justice. Le délit de sédition est puni d'une peine qui peut aller jusqu'à 30 ans de prison.
En Autriche, la coalition au pouvoir qui rassemble la droite et l'extrême droite du FPE a finalement renoncé à interdire le tabac dans les bars et les restaurants. Curieusement, plus qu'aucune autre mesure prise par le gouvernement, la décision déchaîne les passions et mobilise les Autrichiens. Deux camps très déterminés se font face et contribuent à fragiliser le gouvernement, à Vienne, le reportage de Céline Béal.
Le petit café-bar Taverne dans le 9e arrondissement viennois est complètement enfumé. Une exception dans ce quartier où les établissements sont de plus en plus non-fumeurs. Au grand dam de Georg qui aime accompagner sa boisson d'une cigarette.
Quand je travaille dans le coin et que je veux petit déjeuner, je viens ici. Où est-ce que je peux aller sinon ?
C'est plus agréable de pouvoir fumer à l'intérieur ?
Évidemment, en tout cas pour les fumeurs.
Les fumeurs habitués de la taverne l'ont échappé belle. La nouvelle coalition au pouvoir en Autriche est en effet revenue fin mars sur l'interdiction générale du tabagisme dans les bars et restaurants. Cette interdiction, décidée en 2015 par les sociaux-démocrates avec le soutien de la droite, devait entrer en vigueur en mai. Mais l'extrême droite a fait de son élimination une condition de son entrée au gouvernement. Une rue plus loin, Christiane, attablée dans une zone non-fumeur, est très énervée par ce revirement.
Tous ceux qui y sont pour les locaux fumeurs ne se rendent pas compte que la cigarette, c'est un poison épouvantable dont on ne peut plus se tirer une fois que l'on a commencé. On le voit bien avec le vice-chancelier.
Le vice-chancelier Heinz Christian Strache est en effet un grand adepte de la nicotine. Et il se présente aujourd'hui aussi comme le gardien de la liberté des cafetiers et de leurs clients. Mais depuis plusieurs mois, la fronde prend de l'ampleur. L'un de ses meneurs est Thomas Schekeres, président de l'Ordre des médecins de Vienne.
Il ne s'agit pas du tort que l'on se cause soi-même. Pour ça, chacun fait comme il veut. Mais il s'agit de ne pas nuire aux autres. Or, dans le secteur de la gastronomie, les employés reçoivent aussi de la fumée, ainsi que les autres clients, même s'ils sont dans la zone non-fumeur. Il y a une étude qui a montré que, dans les cafés et restaurants, il est impossible de vraiment bien séparer les zones fumeurs et non-fumeurs. Il y a toujours un peu de fumée qui filtre.
L'Ordre des médecins de Vienne a donc lancé, en partenariat avec la Ligue autrichienne contre le cancer, une pétition officielle, ouverte aux signatures jusqu'à demain. Plus d'un demi-million de citoyens et de citoyennes se sont déjà déplacés en mairie pour officialiser leur désir de voir instaurer, enfin, une interdiction généralisée du tabac dans les bars et les restaurants. Cela représente près de 9% du corps électoral de ce pays. Thomas Schekeres.
Ce nouveau gouvernement se targue de plus de démocratie directe. Si c'est ce que l'on veut, alors il faut aussi passer aux actes.
Malgré le succès fulgurant de cette action, le gouvernement a pour l'instant écarté l'idée de revenir sur sa décision ou même de soumettre la question à un référendum contraignant. Et ce, alors même que le parti d'extrême droite FPE, depuis des années, demande que ce genre de pétition officielle soit davantage prise en considération. Résultat, cette campagne, qui a largement tourné au plébiscite, moins contre le tabac que contre l'extrême droite au gouvernement, est une véritable épine dans le pied de ses dirigeants. Le médecin Thomas Schekeres se défend de l'avoir voulu ainsi. Pour lui, seul compte la prévention, et sur ce point, la pétition a déjà joué son rôle.
Même si elle ne fait qu'aider une prise de conscience dans la population des inconvénients et des dangers de la cigarette, alors nous aurons quand même réussi quelque chose.
Chaque année, 13 000 personnes meurent du tabac en Autriche. Et la République alpine est en troisième position des pays européens concernant le pourcentage de fumeurs par rapport au nombre d'habitants. C'est aussi l'un des derniers dans l'Union européenne où les cendriers n'ont pas disparu des tables et des comptoirs. En réalité, la question d'une interdiction revient régulièrement sur le tapis, mais les résistances sont fortes dans la population. Le sondeur et analyste Wolfgang Bachmeier y voit une sorte de fanatisme qui tient presque du religieux.
Au cours des dernières années, il y a eu des discussions très virulentes sur les interdictions de fumer et les zones non-fumeurs. Cela a conduit à une polarisation toujours plus grande des fumeurs et des non-fumeurs. Deux groupes de défenseurs passionnés se sont formés pour les deux causes.
D'un côté, des fumeurs qui craignent de se retrouver traités comme des parias, des dangers publics relégués sur les trottoirs devant les bars. Et puis le FPE.
Du côté des non-fumeurs, on ne compte pas seulement beaucoup de non-fumeurs, mais aussi tous les responsables politiques du domaine de la santé, les médecins et beaucoup d'autres faiseurs d'opinion en Autriche. Et le débat est de plus en plus émotionnel.
Le sujet est aussi un facteur de tension politique, puisque la pétition et les débats entourant la loi pro-fumeurs ont engendré des premières dissonances entre conservateurs et membres du FPE, dans une coalition qui fait mine, par ailleurs, de travailler dans la plus grande harmonie.
L'Italie n'est pas épargnée par la propagande de Daesh et les réseaux djihadistes. Telle est la conclusion d'une vaste enquête qui a abouti à l'arrestation d'un imam dans les Pouilles au sud et d'un Italo-Marocain près de Turin au nord. La menace du terrorisme n'a jamais été aussi forte en Italie, a déclaré le ministre sortant de l'intérieur. Anne Lenir, bonjour. Vous êtes une de nos correspondantes à Rome. Jusqu'à présent, l'Italie n'a jamais été frappée par un attentat lié au terrorisme islamiste. Pourquoi les autorités estiment qu'il faut désormais redoubler de vigilance ?
Eh bien, parce que les enquêtes menées depuis 18 mois du nord au sud du pays démontrent clairement que l'Italie a accueilli sur son sol des personnes qui se sont radicalisées. L'imam qui a été arrêté, Abdelrahman, 58 ans, italien d'origine égyptienne, dirigeait le centre islamique Al-Dawa à Foggia. Il est soupçonné d'être affilié à Daesh et d'avoir endoctriné des enfants âgés de 4 à 10 ans en les encourageant à tuer des non-musulmans et en leur apprenant à fabriquer des engins explosifs. Alors, il faut préciser que le centre islamique Al-Dawa n'est pas un cas isolé. Les premières arrestations d'imams radicalisés remontent à 2007 en Italie.
Il y a eu aussi l'arrestation à Turin d'un Italo-Marocain de 23 ans. Est-elle jugée importante par les autorités italiennes?
Oui, en tout cas d'après les déclarations du préfet de police de Turin, fondées sur les enquêtes et bien sûr des écoutes téléphoniques. Ce jeune homme, après avoir été arrêté en 2015 au motif qu'il avait rédigé le premier texte de propagande islamiste en italien, menait en apparence une vie normale dans la province de Turin. Il habitait chez ses parents qui affirment ne pas être au courant de son endoctrinement et de ses projets. Peu avant son arrestation, eh bien, il étudiait minutieusement la manière de préparer et d'utiliser un camion bélier.
Anne, de manière plus générale, pourquoi l'Italie se sent davantage menacée aujourd'hui que par le passé?
Eh bien, parce que selon les sources de différents services de renseignement, italiens, français, allemands, américains, l'Italie sert de plus en plus de base logistique pour des radicalisés provenant notamment des Balkans et du Maghreb. En 2017, 132 expulsions ont été effectuées pour des raisons de sécurité publique et depuis le début 2018, on en dénombre déjà une trentaine. Enfin, d'après le ministère de l'Intérieur, globalement, le danger terroriste reste très fort, d'autant que bon nombre de combattants étrangers cherchent actuellement des refuges dans des pays européens. La sécurité à Rome et au Vatican a été particulièrement renforcée et elle est très très visible.
Merci Anne Lenir à Rome, à très bientôt. Que sont devenues les œuvres d'art volées durant la guerre des Balkans entre 1992 et 1995 et durant les années qui ont suivi le conflit? Alors que la région peine à sortir d'une crise économique sans fin, certains n'hésitent pas à se faire de l'argent avec les pièces qui végètent dans les musées. Mais en Bosnie-Herzégovine, un homme se bat pour protéger le patrimoine culturel de son pays. Il est à la tête du musée de Tuzla. Laurent Gélin l'a rencontré.
C'est dans la ville de Tuzla, au nord-est de la Bosnie-Herzégovine, que l'on trouve la plus grande collection au monde de portraits du maréchal Tito, ainsi que les œuvres du célèbre peintre Ismet Mujezinović. Des dessins, des sculptures qui ont bien failli disparaître avant que Jenan Jusufović ne reprenne la direction du musée local en 2010.
Les anciens responsables de la galerie ne s'intéressaient pas aux visiteurs. Les portes étaient tout simplement fermées. Mais la situation la plus grave concernait les œuvres d'art exposées. Elles n'étaient pas protégées. Quand nous avons fait un inventaire, nous avons même constaté que beaucoup d'entre elles avaient disparu.
À ce jour, 70 tableaux de la galerie de Tuzla sont toujours introuvables. Et les pièces manquantes se comptent par milliers dans toute la Bosnie-Herzégovine, même si aucun inventaire des œuvres volées n'a jamais été réalisé. Durant la guerre, les tableaux du musée national s'échangeaient contre 2 kilos de sucre dans Sarajevo assiégé, et selon Interpol, 6% du commerce illégal d'œuvres d'art dans le monde aurait toujours lieu en Europe du Sud-Est. Alors, pour alerter l'opinion publique, Jenan Jusufović a créé le Centre contre le trafic d'œuvres d'art en Bosnie-Herzégovine, une association qui se bat pour faire la lumière sur ces vols. Grâce à ces efforts, certains tableaux ont pu être retrouvés, même si les policiers et les magistrats de la région ne sont pas formés à ce type de criminalité. Au moins à la galerie de Tuzla, les portraits de Tito sont désormais bien protégés.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, et sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. À demain.